Donc bonsoir, merci à tous d'être venus pour donc cette conférence qui va donc tenter de répondre à la question suivante. La perfection est-elle l'ennemi de l'humanité? Un sujet assez vaste, et donc pour y répondre, il fallait un casting de presque parfait. C'est pourquoi on a Jana Deba avec nous, qui est lauréate, donc écrivaine de science-fiction, et lauréate du Grand Prix de l'Imaginaire 2008.
Écrivain, Stéphane.
Écrivain, si tu veux. Et donc pour La Vieille Anglaise et le Continent, et également anthologiste, puisque c'est elle qui a dirigé l'anthologie Chasseurs de fantasmes, qui est sortie tout dernièrement chez Griffe d'Encre. Nous avons aussi avec nous Gérard Klein, économiste, éditeur, anthologiste, écrivain, et qui est donc notamment directeur de la mythique collection Ailleurs et Demain, et donc chez Robert Laffont, et de la collection SF du Livre de Poche. Et enfin, nous avons avec nous Jean-Philippe Jaworski, qui est donc écrivain de fantasy. On peut notamment nommer deux livres qui sont Genoa Vera et Gagner la guerre, qui est donc nominé au Grand Prix de l'Imaginaire cette année. Donc, le thème est donc « La perfection est-elle l'ennemi de l'humanité ?» Un sujet assez complexe. Et j'ai envie de commencer par vous demander, Gérard Klein, si c'est un thème qui est abordé souvent dans la science-fiction, la perfection.
Le mot est si difficile à définir en dehors de la théologie que j'ai un peu de mal à imaginer où il est utilisé en science-fiction. Mais avant, pour me donner trois minutes pour réfléchir, je voudrais vous raconter une histoire technologique qu'on m'a moi-même racontée, donc je ne peux pas jurer qu'elle est vraie, mais enfin qui pourrait relever de la science-fiction d'ailleurs. Elle m'a été racontée par quelqu'un qui s'appelle Bruno Lussato et qui avait assez bien compris en son temps, ça a été son principal exploit, l'avenir du micro-ordinateur, un temps où tout le monde jurait que par les ordinateurs géants dans les années 70. L'histoire qu'il m'a racontée est la suivante. Ça siffle un peu, non, le micro? Bon, je vais... Et là, vous m'entendez mieux? Oui, mais plus près, ça va siffler davantage, non? Non, c'est bon. OK, bon. Alors, l'histoire est la suivante. Quand les Japonais ont commencé à s'intéresser aux moteurs à explosion à quatre temps, ils ont démonté scrupuleusement, vous savez que dans la voiture, ils s'en sont pas mal sortis, ils ont démonté scrupuleusement des voitures allemandes, ils ont démonté le moteur, ils ont pris toutes les cotes, et ils ont trouvé que ce moteur allemand chez Mercedes, très haut de gamme, était très mal foutu parce qu'il y avait des tolérances beaucoup trop larges. Eux, japonais, ont décidé de réduire beaucoup les tolérances et de faire un truc à la moitié de micron près. Ils ont remonté le moteur qui était parfait, hein, au sens de notre problématique. L'unique problème, c'est qu'il ne marchait pas parce qu'il a grippé tout de suite. Pour qu'un moteur marche, pour qu'un mécanisme marche, pour qu'un mécanisme social marche, il faut, même pour que le langage marche, il faut qu'il y ait du jeu, exactement comme dans ce moteur. Alors, c'est... Bon, donc, la perfection, en tout cas, est l'ennemi d'un moteur à quatre temps. Ça ne marche pas. Alors, est-ce que dans la science-fiction, il y a une place pour la perfection à proprement parler? Ben, je dirais que non, parce que contrairement peut-être à la fantasy, la science-fiction est une littérature d'un avenir en marche, en perpétuel perfectionnement, donc qui n'atteint jamais, et fort heureusement, sinon il n'y aurait plus rien à raconter, à la perfection.
Et donc du coup, si vous pouviez répondre à Gérard Klein, Jean-Philippe Jaworski, pour la fantasy.
Alors moi aussi je vais commencer par une petite anecdote après tout. Alors celle-là elle sera aussi historique. On pourrait l'appeler l'histoire du philosophe et de l'empereur, sur la relation entre la société et la perfection. Au IIIe siècle de notre ère, il y avait un empereur qui était un assez honnête homme qui s'appelle Galien, on ne s'en souvient pas, mais suffisamment honnête homme en tout cas pour admirer un philosophe qui était un très grand philosophe, le plus grand philosophe du IIIe siècle, qui s'appelait Plotin, qui était un néoplatonicien. Et Galien et sa femme, l'Augusta, les dieux vivants, allaient assister aux conférences de Plotin. Imaginez de nos jours que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni aillent assister à un cours d'un professeur du Collège de France. Alors, Plotin, notre philosophe, qui était un fan de Platon, s'est dit, j'ai eu une opportunité. Il a présenté un projet à Galien. Il a dit, voilà, je voudrais fonder Platonopolis, la ville de Platon. Il y a des villes en ruine, en campagne. J'ai des financements avec des sénateurs. Voilà, je vais construire la ville idéale de Platon, la République de Platon. Je vais adopter les lois de Platon. J'ai les fonds pour faire ça. Il me manque que l'accord de l'empereur. Et cet empereur qui aimait bien la philosophie lui a dit non. Parler de philosophie, parler de république idéale, de loi idéale, ah oui, là oui, il était d'accord. Mais alors, passer à l'application, non. Parce que je pense qu'il avait, des deux, c'était sans doute l'empereur qui était plus sage que le philosophe. Il avait parfaitement conscience du fait qu'essayer de créer une société idéale générerait probablement des catastrophes. Donc c'est finalement une autre histoire qui va dans le même sens. Alors, est-ce qu'en fantaisie, on tend vers la perfection? Bon, je ne vais pas parler pour tous les auteurs de fantaisie, loin de là, parce que là, il y a plus qu'un continent. Mais je dirais qu'en fantaisie non plus, à partir du moment où il y a la perfection, c'est plus intéressant. Ce qui nous intéresse dans le cadre d'un récit, c'est à partir du moment où ça grippe, où ça ne fonctionne pas, donc où il y a des éléments perturbateurs, où il y a des dysfonctionnements. Alors la fantaisie crée souvent une nostalgie artificielle sur un âge d'or où ça aurait fonctionné auparavant, mais ce qui est intéressant pour le lecteur ou pour le spectateur, c'est à partir du moment où ça ne fonctionne plus, où il y a du conflit et où il y a quelque chose à raconter.
Alors c'est mon anecdote à moi. Alors je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais il paraît que certains fabricants de tapis orientaux, des tapis de soie absolument fabuleux, mettent systématiquement dans le dessin de leur tapis un fil de soie brûlé pour que le tapis ne soit pas parfait. Parce que la perfection, c'est l'ennemi. C'est ce qu'on ne doit pas atteindre, c'est ce qu'on doit rechercher. Voilà.
Et justement, au niveau de la recherche, en fait, j'ai l'impression que sur ce thème de la perfection, qui serait l'ennemi de l'humanité, c'est qu'en fait l'homme cherche à être parfait, et c'est là qu'il commence vraiment en fait à faire des grosses bêtises. Et par exemple, on pourrait citer par exemple le cas, par exemple dans la vie anglaise et le continent, du clonage, où en fait on essaye de se rendre plus parfait, immortel, etc. Et on vole les corps de clones.
Je ne sais pas si dans la vie anglaise il est question de perfection de l'humanité, je ne crois pas. Je crois même que je démontre l'inverse en permanence, d'autant plus que le clonage ne fonctionne pas dans la vieille anglaise, et je ne crois pas que ça soit un plus pour l'humanité de devenir une baleine, a priori, mais même si c'est pour changer de sexe en même temps. Hein. Mais cela dit, chaque fois que j'ai croisé le thème de la perfection en SF, parce que malgré tout on l'aborde, chaque fois, elle était battue en brèche par quelque chose. Et je pense par exemple à Un bonheur insoutenable de Dira Levin, où de toute façon, le monde parfait, Dira Levin, s'écroule parce que les gens ne peuvent pas y vivre. Voilà.
En fait, oui, en fait, c'est ce que je voulais aborder ensuite. C'était, en fait, on peut considérer que c'est le grand thème de l'utopie qui, en fait, serait la société parfaite, mais très, très souvent en science-fiction. L'utopie se transforme en dystopie. Et on a donc beaucoup d'exemples dans la SF que vous pourriez donner, Gérard Klein.
Oui, j'en donne un autre. Enfin, je vais essayer de répondre un peu là. D'abord, je crois qu'il est très important de faire la distinction entre l'anti-utopie, c'est-à-dire la description d'une utopie qui fonctionne mal. Le meilleur des mondes est une anti-utopie. Dans une mesure contestable, 1984 est une anti-utopie. De nous autres, de Zamiatine, est une anti-utopie. Donc, de faire la distinction entre l'anti-utopie et la dystopie. La dystopie, c'est un monde dans lequel les choses ont mal tourné. sans qu'il n'y ait jamais eu de velléité utopique. Bon, disons que chez John Brunner, il y a toutes sortes d'exemples de dystopie. Le plus célèbre étant probablement Tous à Zanzibar. Enfin, et il y en a beaucoup dans la science-fiction en général. Donc des dystopies, c'est des avenirs qui ne sont pas franchement souhaitables. Alors, il y a un cas d'un roman très ancien, mais qui a laissé une trace profonde dans la science-fiction, où apparaît, sans qu'il s'agisse à proprement parler d'une utopie, le thème de la perfection. Il s'agit du roman de Jack Williamson, Les humanoïdes. Williamson imagine un avenir dans lequel on crée des robots intelligents, enfin, à leur manière parfaite, enfin en tout cas extrêmement efficace, et qui ont pour souci principal de protéger l'homme, et de le protéger de lui-même. Donc progressivement, ils en viennent à lui interdire de prendre aucun risque, de faire quoi que ce soit. Fumer, il n'en est pas question. Conduire une voiture, on va le faire pour vous, c'est bien trop dangereux. Enfin, etc. Alors, les humains en viennent à se révolter contre ces humanoïdes. Je ne sais plus très bien, parce que j'ai lu ça il y a plus de 50 ans, comment ça se termine. Mais l'idée, c'est donc servir l'homme de façon parfaite, protéger l'homme de façon parfaite. Ça conduit à son avilissement complet. Enfin, il n'a plus qu'à se révolter.
Vas-y, Jeanne.
Ça me fait penser à une nouvelle d'Isaac Asimov où il crée un robot parfait, extrêmement beau. C'est l'homme idéal. Et ils en font le serviteur, le majordome d'une dame pour faire un test. Et ça ne fonctionne pas parce que la dame tombe amoureuse du robot. Voilà.
Dans le thème de la perfection et en fait de la dérive, on essaye de créer un monde parfait et ça se transforme en idéologie plutôt néfaste. Et je crois que Jean-Philippe, vous aviez plus ou moins un exemple à donner de dérive idéologique. On pourrait citer tout simplement le nazisme, par exemple. Mais
Oui, à partir du moment où on a un idéal de perfection et puis qu'on essaye de l'imposer à une population, on va en arriver soit au dogmatisme, soit au fondamentalisme, soit au totalitarisme.
Soit la mode, et ça c'est pire.
C'est une forme de totalitarisme. Alors à partir de là, on peut piocher. Je pense que si on a un roman comme Le meilleur des mondes, par exemple, c'est précisément parce qu'il y a une forte tendance au totalitarisme qui apparaît au milieu du XXe siècle. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, il y a la question de l'eugénisme qui était quand même au cœur des questions totalitaires des années 1930 et qui se retrouve dans le roman. Bon, alors après, c'était une allusion... aux dérives des représentations en fantasy, oui.
Tout à fait.
Oui, alors après, alors là, on va entrer dans un terrain beaucoup plus glissant qui concerne le cliché racial en fantasy.
Glissons,
oui. Bon, je l'avais évoqué en privé tout à l'heure, oui, on peut tenter par exemple de se dire que des races parfaites, comme par exemple les races des elfes, peuvent être interprétées comme des images totalitaires, des images proto-nazies. Bon, c'est à...
Bizarrement, tout le monde a envie de les voir en brochette, les elfes. C'est quand même un signe.
Pas tout le monde, non.
Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu des propositions bien pires que la brochette.
mais c'est peut-être aussi parce qu'on projette sur ces créatures qui nous sont livrées par le prisme de Tolkien, en fait. On projette, en fait, une idéologie qui est une idéologie fasciste ou nazie, alors que...
Je suis pas sûr d'avoir compris, mais tu es en train de dire que Tolkien a une idéologie.
Non, je dis bien qu'on projette.
Ah oui, d'accord.
On projette sur, c'est-à-dire qu'on lui attribue une idéologie fasciste ou nazie en se disant ces êtres supérieurs en tout ressemblent fortement au surhomme, alors que lui, ce qu'il avait en tête, c'était autre chose. Il était dans une optique qui était dans une optique profondément catholique. Et il a dit lui-même que pour lui, ses elfes étaient l'homme d'avant la chute.
D'où leur tendance à se percher sur des rochers pour prédire le temps.
Pourquoi pas. Alors, je pense que quand on voit en fantasy des interprétations racialisantes ou racistes, il s'agit bel et bien de la projection de nos mentalités et des problématiques actuelles sur des représentations qui à l'origine étaient peut-être un peu différentes.
Vous vouliez intervenir, Gérard?
Oui, c'est ce qu'on retrouve, enfin, c'est pas une espèce d'elfe à proprement parler, mais la femme d'avant la chute dans Le Père et l'Embarras de C.S. Lewis, qui était justement un ami de Tolkien. Revenons sur l'eugénisme, je crois qu'il y a une chose quand même qu'il faut rappeler régulièrement, c'est que l'eugénisme est une idée d'éliminer toutes les imperfections, à défaut d'aboutir à un être parfait, donc d'éliminer toutes les imperfections humaines par divers procédés, l'eugénisme qui va de pair avec un hygiénisme, c'est au départ une idée de gauche. C'est une idée qui est profondément progressiste et de gauche et qui n'est réutilisée, réemployée que très tardivement par l'extrême droite. Même après 1945, on trouve très facilement dans toute une idéologie de gauche, pas gauchiste mais de gauche, de forts relents d'hygiénisme et d'eugénisme. Je le rappelle parce que on ne peut pas uniquement condamner l'eugénisme au nom du fait que ça serait j'aurais mille raisons de le condamner, mais certainement pas au nom du fait que ça serait exclusivement une idéologie d'extrême droite et nazie. C'est tardif, hein, alors qu'à la fin du 19e siècle, c'est essentiellement une idéologie de gauche.
Alors, je vais rebondir scandaleusement, je pense, sur ce que vient de dire Gérard. D'abord parce que je suis d'accord avec lui, et ensuite parce que jusque dans les années 60, il faut savoir que dans les pays scandinaves, on a pratiqué la stérilisation des handicapés. Alors ça fait un scandale, qui a fait que les choses ont cessé, et même en France, hein, je crois qu'on a trouvé des traces de ça. Et c'est là que je vais être horrible. En fait, j'ai un enfant autiste, un garçon, qui est suffisamment évolué pour qu'un jour, il ait des relations autre qu'amical avec le sexe opposé. Et moi, la question que je me pose, moi, sa mère, c'est est-ce qu'on peut le laisser faire, le laisser avoir des enfants? Et je me la pose vraiment. Et ça me noue. Alors l'eugénisme, c'est pas si simple que ça. Je veux dire, c'est pas seulement quelque chose de facho, je veux dire. C'est aussi une question très profonde. Si je fais un enfant encore avec le père de mon fils, j'ai 70% de prévalence, de potentiel d'avoir un autre enfant autiste. Je ne referai pas d'enfant avec cet homme.
Je souscris entièrement à ce propos. Il y a un moment d'ailleurs où on ne peut plus dire grand-chose. Ce qu'on peut dire alors qui relève de la science-fiction et des progrès pour renouer avec un thème précédent, c'est qu'on peut espérer de la génétique, enfin, et des progrès de l'ingénierie génétique qui parviennent à corriger ce type de défaut. Légitimement, je pense appeler ça un défaut, et ça dans un avenir qui ne soit pas prodigieusement éloigné. Et ça pose une question éthique très profonde.
Terrible.
J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs débats, plutôt en Belgique qu'en France d'ailleurs, avec des philosophes sur cette question. Ça pose une question, c'est jusqu'où on va? Parce que dans un premier temps, on va corriger un défaut manifeste. Bon, et est-ce qu'on ira ensuite jusqu'à essayer d'améliorer l'humain? Non pas de le faire tendre vers une perfection, mais bon, non plus seulement corriger les défauts, mais essayer de lui donner plus de mémoire, plus d'intelligence, plus de tout ce que force physique, enfin tout ce que vous
voulez. Quitus, fortius, salutius. On va faire par exemple quitus, fortius, salutius, les Jeux Olympiques.
On va
faire par exemple de super coureurs.
Oui.
C'est déjà ce qu'on est en train de faire quelque part. Et je me rappelle notamment du roman de Vintrebert, Les Olympiades truquées.
Oui.
C'est pas super loin.
Et alors, c'est précisément un thème, si vous permettez, qui a été depuis longtemps et fréquemment abordé par les auteurs de science-fiction. Et quand je participe à une réflexion, à un comité d'éthique, non, je n'accepterai pas. Mais quand je participe, ce serait en tant qu'économiste ou sociologue, évidemment, plutôt qu'écrivain de science-fiction, encore que. Et quand il m'arrive de participer à des débats sur ces questions, la première chose que je dis, c'est lisez de la science-fiction. Voilà une liste d'ouvrages que vous devez commencer par lire. Quand vous les aurez lus, revenez me voir et puis on en parlera.
Attends. Effectivement, ça me rappelle le thème du super guerrier. Vous savez, on fait des Superman. Et il y a un merveilleux roman d'Andreas Eschbach là-dessus qui s'appelle Le dernier de son espèce. Et c'est le ratage absolu du super guerrier. Je vous le conseille à tous.
Vous vouliez intervenir, Jean-Philippe Jaworski, sur ce que disait Gérard Klein ?
J'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que la problématique qui se posait là, c'est la problématique en fait qui se posait là, c'est la question entre les améliorations génétiques à des buts thérapeutiques et les améliorations génétiques qui viseraient à faire un homme augmenté en fait. C'est la question de l'homme augmenté qui est en cause.
Oui, mais c'est très difficile. Bon, on n'est pas tout à fait là. On n'est pas forcément extrêmement loin. On sait, en utilisant des virus comme vecteur de gènes, on sait sur des séries animales, enfin en particulier sur des souris, les souris sont bien utiles, pas seulement aux chats, on sait produire des modifications. Alors, mais où est-ce que finit la correction et où est-ce que commence l'augmentation ? Prenons le cas de l'autisme, par exemple. Je ne le connais pas très bien, mais enfin, en tant que psychologue, j'ai été amené un peu à l'étudier, en tout cas à entendre beaucoup de choses là-dessus. Bon, il y a une variété d'autisme dont les écrivains, les lecteurs de science-fiction ont à peu près tous entendu parler, les autres gens pas tellement. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, qui est un syndrome d'autisme léger, mais qui permet à celui qui en souffre ou qui en bénéficie une concentration exceptionnelle. On a des raisons de penser qui sont très très floues, enfin que Albert Einstein oui. était atteint, un représentant du syndrome d'Asperger, dans un roman que je vais publier prochainement, ça s'appelle Éveil de... Merde. Bon, peu importe, un des personnages est atteint du syndrome d'Asperger, enfin ça joue un certain rôle. Il est très indifférent à son entourage, mais c'est un physicien de très très grande classe.
Excuse-moi, alors, pour les geeks présents dans la salle, dans Big Bang Theory, le personnage de Sheldon est un autiste Asperger. Voilà, si ça parle, voilà.
Donc c'est très difficile de faire... la part, dans l'état actuel des choses, en tout cas, c'est très difficile de faire la part entre la correction, sur laquelle on discute pas trop, c'est une façon de parler. Il y a quelques semaines, il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a eu un article dans Le Monde de Madame Agacinski, qui m'a prodigieusement agacé, ainsi que mon ami et collègue Gilbert Autois, qui condamnait toute espèce de correction génétique, et surtout quand elle concernait le génome, c'est-à-dire le transmissible. Bon, ça m'a prodigieusement agacé, parce que philosophiquement, à mes yeux, il était nul. Je n'avais pas le temps d'écrire une réponse, je ne sais pas si Le Monde l'aurait publié. Gilbert Autois, qui est plus qualifié que moi, c'est un philosophe spécialiste de ces questions, a écrit une réponse qu'il a envoyée au Monde. Moi, j'ai trouvé un peu trop... pacifique, un peu trop diplomatique, mais enfin, on verra bien si Le Monde le publie ou pas. Mais on rencontre très vite ce problème la distinction entre correction, que même Agacinski n'accepte pas, entre correction et augmentation. Et vous avez un grand nombre de maladies, de difficultés, de mots où on ne sait pas très très bien quelle est la part, et je crains qu'on mette très longtemps à savoir, quelle est la part du positif et du négatif. Bon, il y a pas la même chose qu'on sait, que les psychologues savent bien, qui est que parmi les écrivains en particulier, les créateurs en général, les écrivains en particulier, on a une proportion extraordinairement élevée de gens qui souffrent ce qu'on appelle le bipolaire, enfin, c'est-à-dire maniaco-dépressif. Le maniaco-dépressif, c'est un peu excessif, parce que, enfin, bon, il y a beaucoup d'écrivains, Virginia Woolf, etc., se sont suicidés dans une période de bas. Bon. Alors, admettons qu'on sache corriger ça. On le corrige à l'heure actuelle avec des médicaments qui sont plus ou moins efficaces, qui ont des effets secondaires plus ou moins embêtants, mais enfin, on corrige, on sait assez bien faire, au moins je suis sur le sujet jeune. Mais admettons qu'on puisse le corriger sur un niveau génétique, parce qu'il y a un gène, hein, ça, il y en a même plusieurs, et le problème c'est qu'il y en a peut-être même plusieurs dizaines qui sont impliquées là-dedans. En tout cas, on n'est pas uniquement dans de l'épigénétique. Admettons qu'on sache le corriger. Est-ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain? Et ça, là, on ne sait pas. C'est pour ça que la question correction, oui, a priori, tout le monde est à peu près sensé, sauf Madame Jagacinski, est d'accord. Mais où est-ce qu'on fait passer la barre entre correction, je ne dirais pas augmentation, mais bon, changement, choix plus profond, c'est une question difficile.
Alors, je propose que peut-être nous laissions la parole au public qui a peut-être des questions à poser. Je vais amener le
Voulez-vous micro. Être parfait? Bien êtes-vous déjà?
Qu'est-ce qui permet de penser que collectivement, on voudra faire une distinction entre correction et augmentation? À mon avis, on s'en foutra totalement. Correction ou augmentation ne sera pas un débat. Tout simplement, on pourra faire, donc on fera. Point final.
Ah, ce n'était pas une question.
Je ne pense pas que ça, la question se posera. On pourra faire. On fera. Comme d'habitude.
La seule question qui reste à poser, c'est est-ce qu'on imposera à tout le monde ou est-ce qu'on laissera encore
non,
la possibilité de ne pas corriger ou de ne pas améliorer.
Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne idée, ce que tu dis là, Georges. Moi, je pense aux témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines. Tout de suite, là. La liberté de choix, il y a un moment où c'est un petit peu comme le droit à la reproduction, il faut s'interroger.
Oui, non, la question en particulier se pose quand on touche au génome, pas seulement au phénotype, c'est-à-dire pour les générations futures. Madame Agacinski, dans son médiocre article, pose quand même une vraie question. C'est la décision est prise non pas seulement pour le sujet qui se fait corriger, mais il fait corriger les générations à venir qui n'ont pas voix au chapitre. Alors, c'est un problème très difficile et très complexe que je ne vais pas résoudre en deux coups de cuillère à peau, mais je dirais que c'est ce que l'humanité a toujours fait. Quand on met un enfant à l'école, croyez-moi, j'en ai pas eu, mais j'en connais quelques-uns, il raffole rarement de la chose, on la lui impose, et ça va avoir des effets pendant des générations. Bon, c'est ce que l'humanité a toujours pris soin de sa progéniture en pensant à l'avenir et en veillant à modifier le comportement, les façons de penser, enfin, etc., de sa progéniture sans lui demander son avis. Donc c'est là où je pense que Mme Jagacinski se trompe. C'est une vraie question. Encore une fois, on ne peut pas la résoudre comme ça en 5 minutes. C'est une vraie question, mais c'est une question qui s'est posée bien avant les manipulations génétiques.
Bonjour. Donc moi, enfin, ça me pose un énorme problème dans le sens où je ne vais pas réfléchir à l'échelle de l'individu, je ne vais même pas réfléchir à l'échelle de la génération. Ce qu'on appelle des erreurs génétiques ou en tout cas des changements génétiques par rapport à une norme qui serait définie par des personnes qui de toute façon sont subjectives, enfin c'est de base, ces erreurs-là sont la base de tout le mécanisme évolutif de la vie sur cette planète. Donc, si on se décidait finalement à interrompre ces erreurs, ou en tout cas à définir une norme de laquelle il ne faudrait pas sortir, en interrompant tout le mécanisme de changement à l'échelle du génome, on interrompt tout le mécanisme évolutif de l'homme. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'homme est capable de définir lui-même l'évolution à laquelle il doit tendre pour survivre dans cette planète ?
Mais c'est ce qu'il fait au minimum depuis des centaines d'années. Il ne le fait pas en manipulant son ses gènes parce qu'il y a moins longtemps qu'il sait à peu près comment ça fonctionne, il devine à peu près comment ça fonctionne. Et pensez à une chose très simple qui est la vaccination. La vaccination, qu'on pratique de façon de plus en plus extensive depuis le XVIIIe siècle, a éliminé ou en tout cas considérablement réduit l'empire d'un certain nombre de maladies. Et c'est un mécanisme complètement anti-évolutionniste. En vaccinant les gens contre la variole, en les vaccinant contre la peste, en les vaccinant contre une cinquantaine de maladies, dont le tétanos, on a fait en sorte que ne se trouvent pas éliminées les générations sujettes à ces maladies, qui laissaient subsister seulement ceux qui y résistaient, qui se reproduisaient, etc. Donc c'est un exemple parmi bien d'autres. Nous connaissons historiquement de façon beaucoup plus ancienne, quand l'humanité a commencé à consommer du lait, c'est-à-dire il y a probablement 10 ou 15 000 ans au maximum, d'une transformation profonde du génome humain s'est faite, scindant en gros la population humaine de la planète en deux catégories. C'est la catégorie qui supporte le lait et la catégorie qui ne supporte pas le lait. Bon. Et ainsi de suite. Alors, puisque nous sommes dans le système...
Attends, excuse-moi, Gérard. Excuse-moi, Georges. C'est moi qui l'ai interrompu d'abord, donc c'est moi qui ai la présence. Tu prends l'exemple des vaccins, et justement, en ce moment, il y a un énorme débat là-dessus. Il y a plein de gens qui refusent les vaccins en bloc, et notamment celui de la grippe, machin, avec des 1 et des H partout, je ne sais pas. On dirait que tu l'as lu, tellement c'est indicible comme mot. Et effectivement, c'est une vraie question aussi. Je comprends la réaction de la jeune fille Andoris au début. Elle se pose.
Oui, enfin, en ce qui concerne le vaccin, il ne faut quand même pas charrier. Quelqu'un appelait ça une réaction d'enfant gâté, et ça me paraît vraiment être le cas. Si les gens commencent à mourir par millions, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps avec
la grippe espagnole
de 1918-1923, de 1918-1923, croyez-moi, ils se précipiteront vers les vaccins. Bon, et comme il faut 3 semaines ou 1 mois pour que la vaccination fasse ses effets, ils mourront avant.
Là, je suis d'accord, mais en l'occurrence, ils sont en train de nous vacciner contre le risque zéro, clairement.
Écoutez, j'ai eu des débats là-dessus avec des gens extrêmement compétents. D'abord,
c'est pas mon cas.
Je pense à des gens qui sont à Harvard, etc. Il ne s'agit pas de risque zéro. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que il y a quand même eu aux États-Unis à l'heure actuelle 1000 morts liées à la grippe. C'est pas très considérable, même si on est au tout début du truc. C'est pas très considérable. Bon, on a eu de la chance avec cette histoire, mais il faut pas. Je crois qu'on est en train de sortir complètement du sujet, mais il faut pas en tirer des conclusions. Bon, la vaccination a sauvé, depuis qu'elle existe, probablement au moins 1 milliard de vies. Ce n'est pas des petites quantités.
Non, mais je suis d'accord avec ça.
Il y a des maladies comme la variole qu'on a éradiquées complètement. Bon, il faut voir qu'au XVIIIe siècle, un tiers de la population y passait dans sa vie.
Et d'ailleurs, pour apporter de l'eau à ton moulin, la tuberculose contre laquelle on ne vaccine plus revient.
Absolument. Elle revient, alors pour des tas de raisons...
Pour des tas de raisons sociales, mais elle revient.
Elle revient sous des formes aggravées. C'est-à-dire des formes que, dans certains cas, on n'arrive absolument pas à maîtriser avec les meilleurs antibiotiques qu'on a sous la main. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans des détails.
Non, mais ça amène exactement dans notre débat. C'est-à-dire qu'il y a à la fois fantasme sur la perfection, et le fantasme, ça peut être de vacciner tout le monde contre une maladie qui, finalement, tue moins que la grippe saisonnière. Et ça peut ne pas gérer une maladie comme la tuberculose, parce qu'on n'est pas en train de gérer le social. C'est tout le problème de la correction que signifiait Gérard tout à l'heure, et c'est là qu'on se retrouve. C'est que le problème, c'est que, en fait, les corrections, et c'est ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure, les corrections, ce n'est pas nous qui les maîtrisons, en fait. Et on ne les maîtrisera jamais, ce n'est pas nous qui prendrons la décision. C'est des gens qui pensent, qui sont capables de vous définir le net dans une loi, alors qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ce sont des gens qui n'ont pas la moindre idée de comment un gène fonctionne. Par contre, ils savent très bien comment les élections fonctionnent.
Moi, j'ai une question à la rigueur. Pour ou contre l'augmentation ou la correction ça, c'est un débat important, certes, mais une correction physique, une amélioration physique, on peut comprendre si on dit qu'il y a un canon de beauté. Dans ce cas-là, on veut tous y ressembler, mais dans ce cas-là, il y a un très bon bouquin qui s'appelle « Et on tuera tous les affreux » qui répond tout à fait bien, de je ne sais plus qui.
Et Boris Vian.
Non, et on tuera tous
les affreux, c'est Boris Vian.
Ah bon, d'accord.
Sous son... ah, si.
Je crois que c'était Vernon Sullivan, mais bon. Et,
ça baisse beaucoup, d'ailleurs, dans ce...
ah non, non, mais voilà, c'est une chose, mais pour ce qui est de l'augmentation de la correction de l'intelligence, à quoi bon, je me posais la question, étant donné que, vraisemblablement, les dernières études montrent qu'on utilise entre 10 et 30% du cerveau. Si on augmente
ça, c'est complètement faux.
Ça, c'est n'importe quoi. C'est tu marcherais pas si tu utilisais que 30% de ton cerveau.
Il y a un philosophe américain qui a dit ça sans savoir au 19e siècle. C'est James. Bon. Et puis, ça a été repris. Et c'est à partir de là qu'on trouve et qu'on retrouve ça par Bergier et Powell dans Le Matin des Magiciens. Et c'est une connerie sans nom. D'autre part, je vous dirais que même si on n'utilise pas tout le temps 100% de son cerveau, c'est fort heureux parce qu'on n'aurait pas de marge de manœuvre. Ni de, vous n'utilisez pas non plus tout le temps 100% de votre force musculaire. Ben ceux qui le font, il leur arrive des choses extrêmement ennuyeuses, par exemple des ruptures d'os.
Je parlais pas du cerveau dans son ensemble. J'excluais bien sûr le cervelet et toutes les fonctions qui permettent au corps de marcher. Je parlais du cerveau, tout ce qui est les lobes frontaux et compagnie, proprement dit. Et pour l'instant, rien ne permet d'affirmer qu'on utilise 100% de son cerveau, ni même 80%, puisqu'il n'y a pas d'études qui permettent de prouver ce genre de... Et donc je me posais la question, plus que de savoir si c'est vrai ou faux, l'intérêt d'une correction sur quelque chose qu'on utilise quasiment, enfin, qu'on n'utilise pas à 100%, en fait.
C'est quoi la question?
Vous avez
en fait
dit vous-même qu'on ne savait pas quel pourcentage qu'on faisait de notre matière grise. Donc, ce n'est pas du tout là qu'est la question. Enfin, en ce qui concerne la correction, il y a un certain nombre de maladies absolument épouvantables, comme celle qui se traduit par la viscosité, la mucoviscidose, merci. On meurt maintenant, on arrive à faire tenir les gens jusqu'à 25-30 ans, parfois un petit peu au-delà, mais c'est une maladie absolument épouvantable. On sait qu'elle est familiale, on sait qu'elle est d'origine génétique. Bon, est-ce que quelqu'un peut éthiquement dire je refuse de la corriger parce qu'au bout de 150 000 ans, ça éliminera les porteurs de gènes de la mucoviscidose, ce qui n'est d'ailleurs pas grâce au mécanisme de l'évolution? Bon, là, il s'agit d'une correction. Et ben, le jour où on saura le faire, moi, je voterai pour.
Ça évoque un écho, alors très, très flou, ce que tu viens de dire. J'avais lu dans Science, ou pour la Science, un truc alors, sur la mucoviscidose, qui était en fait une conséquence d'une mutation bénéfique, une conséquence maléfique d'une mutation bénéfique au départ aux alentours de, il y a 150 millions d'années, chez l'être humain. Donc, effectivement, on peut reposer la question. Oui.
Oui, en fait, c'est exact. C'est-à-dire que le gène muté dans le cadre de la mucoviscidose est un gène qui permet de fabriquer un lubrifiant pulmonaire qui permet l'ouverture des poumons plus facile et l'entrée de l'air en grande quantité. Donc, c'est un lubrifiant naturel qui, dans le cas de la mucoviscidose, est muté et devient un mucus collant qui, au contraire, ne va pas permettre l'ouverture des alvéoles pulmonaires, mais leur fermeture et le fait que les alvéoles vont se coller les unes aux autres et empêcher l'air donc de rentrer. Moi, là, je vais à nouveau dépasser l'idée de l'individu, parce qu'effectivement, quelqu'un qui serait atteint d'une mucoviscidose, si on avait la capacité de changer cet état de fait, ce serait peut-être anti-éthique de ne pas le faire. Effectivement, si on a la possibilité de guérir quelqu'un, je suis d'accord. Mais je dépasse l'échelle de l'individu tout simplement parce que si jamais on avait la capacité de corriger ce gène, il faudrait le faire dans chacune des cellules de cet individu.
Ça on sait le faire. Ça, on sait le faire. On sait le faire sur des souris. Je ne dis pas pour la mucoviscidose.
Uniquement au niveau des cellules souches, c'est-à-dire au moment...
Non, pas du tout. On sait. Alors, par exemple, il y a de très grands espoirs dans le traitement du diabète de type 2. Il y a de très grands espoirs parce qu'on a su provoquer génétiquement de tels diabètes chez des souris et on sait les corriger avec des virus porteurs de correction génétique sur et pas uniquement avec les cellules souches.
Mais c'est parce que c'est une maladie auto-immune et non une maladie génétique.
C'est une maladie auto-immune qui a une origine génétique.
Elle a effectivement une origine génétique, mais on peut recréer des cellules bêta des îlots de Langerhans par l'ajout de cellules souches à cet endroit-là.
C'est exact, c'est une des voies thérapeutiques, mais la celle dont je parle existe aussi.
En dehors de ça, pour la création de ce mucus, de ce lubrifiant à l'intérieur, moi je reviens à la mucoviscidose, effectivement, à l'intérieur des poumons, changer à l'intérieur de toutes les cellules pulmonaires, c'est strictement impossible. Toutes les cellules du corps, changer le gène dans toutes les cellules du corps, faire en sorte que le gène qui est apporté soit inséré dans tous les noyaux au bon endroit, sans provoquer des changements qui seraient plus graves.
C'est pas comme ça qu'on procède. Enfin, je suis pas un spécialiste de la question, même si j'ai un peu regardé dans Pour la science et ailleurs, et avec quelques amis et collègues, ce genre de questions. Mais c'est pas. Bon, on provoque une infection virale d'un virus qui est inactivé et qui va introduire suffisamment dans suffisamment de cellules du gène correcteur pour produire un effet massif. Il ne s'agit pas de toutes les cellules du corps, mais dans l'état actuel des choses, en ce qui concerne des souris, et on l'espère pour des humains, on espère traiter également comme ça la maladie de Parkinson, on arrive à traiter suffisamment de cellules pour que ça ait un effet thérapeutique très important, massif. Bon. D'autre part, l'idée de départ, eh bien, on n'en est pas là, hein, de loin, mais bien de procéder au niveau du génome à une correction génétique telle que le risque de mucoviscidose, de diabète, enfin, etc., quand il est d'origine héréditaire, soit écarté. Alors, encore une fois, je dis bien, on n'en est pas là, mais sur des modèles animaux, d'après ce que j'ai lu ou entendu, on est très loin.
Je comprends donc qu'en fait, le modèle décrit, c'est le modèle de la thérapie génique en général, mais là, on soigne uniquement l'individu, et à moins de changer également les gènes au niveau de ses cellules reproductrices, il pourra transmettre malheureusement le gène déficient.
C'est ce que je viens de dire, et c'est bien son génome, et il y a deux approches thérapeutiques, la première est en quelque sorte locale, la deuxième concerne le génome, et vise bien à empêcher la transmission du gène, en quelque sorte, avarié, enfin, incorrect. Non, c'est bien de cet aspect, et c'est bien cette question, quand on intervient sur le génome, on prend une responsabilité vis-à-vis de la génération d'après et des générations à venir. C'est une vraie question, qui n'est pas question d'évacuer en deux minutes ici, mais dans le cas d'un certain nombre de maladies, il sera indispensable, à mes yeux, hein, je parle du haut de ma tête, c'est mon avis et je le partage, il sera indispensable de procéder à des corrections génomiques.
D'ailleurs, pour un autre exemple qui va exactement dans ce sens-là, est un cas de leucémie qui... pour des raisons génétiques qui apparaît en Afrique notamment, par un gène qui a un effet, le gène muté a un effet bénéfique sur le paludisme. C'est-à-dire que
c'est un gène... l'anémie falciforme, voilà, dont tu parles.
Donc si on veut guérir complètement l'anémie falciforme, on prévoit aussi des effets bénéfiques sur d'autres maladies.
Pour revenir un petit peu au début de la discussion, on a abordé deux types de perfection, celui de l'homme, enfin en tant qu'être humain, personne, et celui des sociétés. Et il y a toujours une sorte de tension entre les deux. C'est vrai que quand on parle de société parfaite ou utopique, moi le texte un peu fondateur, c'est ceux qui partent d'homme là, d'Ursula Le Guin, ceux qui partent d'homme là.
D'accord.
La nouvelle d'Ursula Le Guin, qui montre une société parfaite, qui semble parfaite, dans lequel vivent très bien certaines personnes, et certaines personnes la quittent. Et simplement parce qu'au cœur de cette société parfaite, il y a une injustice inacceptable, acceptable pour certains, qui peuvent vivre l'utopie, la société parfaite, et d'autres qui partent. Et c'est souvent le... Bon, ensuite, ces sociétés parfaites-là, en général, en effet, ne sont pas sujets d'histoire, donc on s'intéresse plutôt à ceux qui partent, ou quand ça tourne mal, ou alors aux franges, comme dans la culture de Banks, ce qui se passe dans les franges de cette culture parfaite. La perfection est peut-être pas contraire à la SF, mais en tout cas contraire à de bonnes histoires, comme on le disait au début.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Ensuite, ce qui est souvent le cas dans beaucoup d'histoires, c'est qu'une même une société parfaite ne peut répondre pas à toutes les attentes d'un être humain. Et là, que ça soit l'enfant de la science de Heinlein ou les histoires de Star Trek, on va toujours chercher plus loin l'aventure, la confrontation à l'autre. Même si notre société est relativement satisfaisante, on va chercher l'immortalité, on va chercher des réponses à autre chose qui vont au-delà d'une société qui peut être satisfaisante pour la plupart des personnes qui la vivent.
Dernière question. Pour en revenir à Ian Banks, justement, et la culture... Ma question, et j'aimerais bien entendre Gérard Klein sur ce thème, dans la mesure où la perfection de l'homme passe aussi par, médicalement parlant, puisque vous abordiez le thème sur homme aussi tout à l'heure, j'aimerais entendre Gérard Klein.
Je suis son représentant autorisé oui. sur Terre.
Je croyais que c'était voilà. celui de Dieu. Banks, c'est donc Dieu.
Me parler un petit peu, justement, me parler un petit peu de la culture et de cette perfection qui va se confronter avec un système, notamment dans l'homme des jeux, un système bien plus barbare, très, très dur, très violent, va se confronter avec une culture qui, elle, est vraiment le modèle pacifique, hédoniste, presque lisse, plastique. Et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas, étant donné que nous, êtres humains, aujourd'hui, dans la société, on a un système de santé à deux vitesses aussi, ces questions-là de surhomme, elles viennent un petit peu entrer en résonance aussi à ce niveau-là. On a un système de santé à deux vitesses. Est-ce que si on était amené à développer... je ne sais pas, une perfection, une utopie à tendre vers ce système-là, est-ce qu'on n'aurait pas une confrontation, là aussi, entre deux modèles qui... Je ne sais pas, je pense à, par exemple, aux gens qui ne pourront pas se payer cette perfection-là. Et bon, qui... Voilà, donc j'aimerais bien entendre une réponse. Bon,
je pense qu'il y a deux questions très différentes que vous avez soulevées. Donc je vais essayer de distinguer en m'efforçant de ne pas oublier la deuxième quand j'aurai abordé la première. La première question, c'est quelle question pose Ian Banks dans la culture, la société de la culture ? Alors, il pose une question très intéressante pour l'économiste, qui n'est pas d'ailleurs celle qui apparaît le plus immédiatement. Il demande qu'est-ce qui se passe quand on a résolu le problème de la rareté ? Bon, à partir du moment où compte tenu de la quantité virtuellement infinie d'énergie et de matière qu'il y a dans l'univers, si on a la technologie appropriée, on peut tout produire. On a résolu la question de la rareté. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors la réponse de Banks, elle est intéressante parce qu'à bien des égards, elle est multiple, voire ambiguë. Au fond, il dit la plupart des gens vivent très bien, mais au fond, des vies sans intérêt. Et il y a un de mes amis qui est chercheur à Harvard, justement, qui trouve ça absolument monstrueux parce que les machines intelligentes, certains d'entre vous ici savent que je ne crois absolument pas à l'intelligence artificielle, mais enfin, les machines intelligentes sont tellement plus intelligentes que les humains qu'il n'y a plus rien à trouver, etc. Vous pouvez imaginer que ça bouleverse un très bon chercheur de Harvard, français, enfin, qui est là-bas pour l'instant. Bon. Donc. Banks pose cette question, qui est une vraie question. Si un jour on arrive à régler le problème de la rareté, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, l'autre question que vous souleviez, c'est celle de la médecine à deux vitesses. Et là, il faudrait beaucoup préciser la chose. Parce que dans nos sociétés, qui sont inégalitaires et qui présente énormément de défauts. En tant qu'économiste, croyez-moi, je suis bien placé pour en avoir une idée. Dans nos sociétés, on ne peut pas véritablement, sauf exception, cas très particulier, parler de médecine à deux vitesses. Et ce qui s'est passé au cours des, disons, 150 dernières années, ça a été, là, en tout cas dans les sociétés développées et industrialisées, je ne le dirai pas pour des raisons évidentes pour les États-Unis, mais c'est tout à fait socialement et économiquement correctible aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que à peu près toutes les découvertes médicales et biologiques ont bénéficié à la quasi-totalité des populations des pays développés et pour des coûts finalement très faibles. Regardez les coûts des médicaments, ça va de quelques euros à quelques dizaines d'euros. Et alors, que la couverture universelle n'existe pas, qu'il y ait toutes sortes de... Bon, j'ai un petit peu contribué dans le passé à étudier ce genre de choses et j'ose l'espérer à améliorer les choses. Mais les progrès technologiques en matière médicale, sauf cas très particuliers, et il y en a et j'en suis tout à fait conscient, s'étendent très vite à des coups bas à toute la population. C'est pas ça qui fait fondamentalement le déficit de la sécurité sociale. Bon, alors imaginons qu'il y ait des thérapies extraordinaires. Bon, Robert Sawyer, c'est l'auteur dont je perdais le nom tout à l'heure, imagine dans un bouquin que j'ai publié, Rollback, qui est à mon avis moins bon que ceux que j'ai publié ensuite, mais ça c'est secondaire, imagine une thérapie qui rajeunit, le rollback, retour en arrière, etc., et qui est extraordinairement coûteuse. Alors, ne peuvent se l'offrir que les milliardaires, et on l'offre à l'héroïne du bouquin et à son mari pour des raisons que vous découvrirez ou ne découvrirez pas en lisant le livre. Mais ce genre de... Et dans sa conclusion, que je trouve d'ailleurs un peu exagérément optimiste, donc un peu bêtasse, Sawyer dit que cette technologie, 50 ans après, elle est devenue commune, enfin elle est devenue courante. Je ne pense pas que très longtemps, sauf cas encore une fois très particulier, une technologie médicale, y compris de correction génique, coupe l'humanité en deux, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. En tout cas, il n'y en a pas d'exemple dans le passé. La vaccination antivariolique était réservée au XVIIe siècle à une élite, et même une très rare élite, en grande partie d'ailleurs pour des raisons culturelles. Bon, elle est devenue, je ne sais pas, je serais incapable de vous dire quand exactement au XIXe siècle, mais certainement au XXe siècle, tellement répandue que c'est une maladie qu'on a en principe éradiquée. Et on pourrait multiplier les exemples. Les antibiotiques, les antiviraux, les sauf cas très particuliers ne coûtent pas très cher. Quand un petit coût de cher, ce n'est pas en raison du coût de leur fabrication, c'est en raison de la nécessité d'amortir les sommes considérables qui peuvent avoisiner milliards de dollars qui ont été investis dans leur développement.
Bon, il est l'heure de laisser la main. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette conférence qui soulève des problématiques passionnantes et qui passionnent. Donc, vous pouvez rester ici pour suivre la conférence qui traitera de l'anniversaire. Non, vous bougez pas, Gérard Klein, car vous êtes avec Gilles Dumay et Pierre Michaud pour parler donc de l'anniversaire de Lune d'encre, de l'Atalante et d'ailleurs et demain. Merci à vous.
Vous qui m'avez donné le bout des préfaces des
points de SF. Moi, je vais aller casser au début, là, c'est pas...